Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Mélomanie. C'est l'un des derniers numéros de l'année pour votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. La semaine prochaine, beaucoup d'entre nous vont prendre quelques jours de vacances bien mérités et fêter Noël en famille. Cette période donne lieu en général à une accalmie dans l'agenda des événements musicaux. Cela dit, vous allez pouvoir constater que cette accalmie est relative et il y a d'ici là de nombreux rendez-vous à noter sur vos agendas. Jeudi 18 décembre, le cycle des grands interprètes accueille à la Halle au Grain le chœur Orfeon Donostiara pour un joli concert de chant de Noël. Au même endroit, dimanche 21 décembre, l'Orchestre National du Capitole propose un concert jeune public inspiré de la boîte à joujoux de Claude Debussy sur un texte d'Élodie Fondacci qui va officier en tant que narratrice. Et puis à partir du 19 décembre jusqu'au 31, le ballet de l'Opéra National du Capitole donne Casse-Noisette dans une chorégraphie de Michel Rann. Nous allons vous présenter tout ça avec Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Nous allons revenir maintenant sur l'actualité musicale récente, Retour arrière.
Mélomanie, Retour arrière.
Bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation Serge, une fois de plus.
Mais avec plaisir.
Nous allons d'abord revenir sur le concert qu'a donné l'Orchestre National du Capitole avec la mezzo-soprano Marianne Crebassa. C'était le jeudi 11 décembre à la Halle au Grain, sous la direction du chef espagnol Roberto Forés Vesés. Le programme était original, constitué d'œuvres qu'on entend finalement assez peu en public, dont une créée pour la première fois en France.
Exactement, et en présence de la compositrice. Donc c'était le concert du 11 décembre qui s'ouvrait sur la création française d'une œuvre intitulée Mosaïques. Et la compositrice de cette œuvre est finlandaise, elle s'appelle Outi Tarkiainen. Elle est née en 1985, donc c'est une jeune compositrice. C'est une œuvre qui date de 2021, donc qui est récente, et qui s'inspire d'un projet collaboratif lié au changement climatique. Une œuvre actuelle, hein, tout à fait actuelle. Et donc, on a pu écouter la richesse colorée de cette partition qui, en fait, s'inspire d'une ballade écossaise du XVIe siècle. Et on a appris, là, qu'elle constitue un résumé sans parole du premier opéra de la compositrice qui s'appelle « A Room of One's Own ». C'est un drame que cette pièce symphonique résume en quelque sorte, avec une sorte de romantisme poétique, de passage inquiétant. Et donc c'est une œuvre vraiment intéressante que l'orchestre a magnifiquement jouée, avec toutes les belles couleurs qu'on lui connaît. Ça a eu beaucoup de succès, la compositrice est donc venue saluer, et elle a félicité avec beaucoup d'insistance l'orchestre, les musiciens et le chef, bien évidemment.
Donc c'est une œuvre qui a vraiment été bien accueillie par le public,
tout à
parce
fait.
Que c'est toujours une prise de risque, hein, une œuvre contemporaine, on ne sait jamais trop comment le public va la recevoir. Le public toulousain est assez ouvert de manière générale.
Oui, mais il s'agit d'une œuvre tonale, hein, c'est pas du Boulez ou... Non, c'était une œuvre tout à fait écoutable, largement écoutable par tous les publics.
Alors, comme il s'agissait d'une création française, je voudrais la faire entendre à ceux qui n'étaient pas à la Halle au Grain jeudi dernier, parce qu'on risque de ne pas l'entendre de sitôt maintenant. Voici un extrait de Mosaïques, la pièce de la compositrice finlandaise Outi Tarkiainen.
Thank you.
Un extrait de Mosaïques, la pièce d'outils Tarkiainen, dont la création française a donc eu lieu jeudi dernier à la Halle au Grain, grâce aux musiciens de l'Orchestre National du Capitole. Placé sous la direction de Roberto Forres-Vesses, il y avait deux autres œuvres au programme de cette soirée, Serge, à commencer par les Kinder Totenlieder de Gustav Mahler.
Voilà, qui était chanté en soliste par la grande mezzo-soprano, je dis vraiment la grande mezzo-soprano, parce que c'est magnifique ce qu'elle fait, c'est Marianne Crebassa, qui chantait ces cinq lieder, composés par Mahler, je le rappelle, sur des poèmes éponymes, qui s'appellent la même chose, Kinder Totenlieder, de l'écrivain allemand Friedrich Rückert, à la suite de la mort de deux de ses enfants, tout de même. Malédiction, donc, attachée à l'œuvre, Mahler a lui-même perdu sa fille peu après la création de ces Kinder Totenlieder. C'est vraiment une œuvre tragique et très émouvante. Hein. Et là, on a eu droit vraiment à une démonstration à la fois vocale, parce que Marianne Crebassa possède une voix à la fois riche et profonde, avec une sensibilité et une noblesse vraiment tout à fait bouleversante. Et dès le début, son chant se fait blessure, en quelque sorte. C'est vraiment très émouvant. Elle adapte son timbre à chaque thème des leaders suivants. Et donc, tout ceci évolue de la nostalgie à la douleur, avec l'évocation de la tempête pour le lead final, In diesem Wetter, in diesem Brauch, donc par ce temps, sous cette averse. Et donc, c'était vraiment extrêmement émouvant. Elle a eu, évidemment, un grand succès à la suite de ces cinq leaders. Et puis en deuxième partie du concert, nous avons entendu l'une des symphonies les plus jouées de Jean Sibelius, la cinquième, qui a été composée pendant une période historiquement troublée, on peut dire. Et elle exprime pourtant un certain optimisme, elle s'achève sur quelque chose d'optimiste, effectivement. On évolue à partir de l'inquiétude vers cette éclaircie finale. Et donc, ça a été une belle exécution avec un déploiement expressif vraiment très riche et très coloré, tellement caractéristique du style du compositeur. Et puis, pour conclure cette soirée, le chef invité, Roberto Forres-Vesses, s'est adressé au public et il a souhaité jouer un bis, mais un bis particulier, puisqu'étant donné les événements douloureux de notre époque, il a décidé de diriger une œuvre symbolique d'un compositeur actuel ukrainien, on a donc compris pourquoi, Valentin Silvestrov, un octogénaire actuel, vivant, qui s'appelle Sérénade du soir, une partition particulièrement apaisante, joué uniquement par les cordes de l'orchestre. Et donc, cette initiative, de sa part, a été largement approuvée et applaudie par l'ensemble de l'assistance. Et puis, je voudrais quand même signaler qu'on a pu apercevoir dans le public une personnalité musicale de premier plan, très attachée à Toulouse, qui s'appelle Michel Plasson, tout simplement, qui a discrètement assisté à ce concert. Il ne s'est pas manifesté outre mesure, mais bon, ça a été une attention qui a été particulièrement appréciée par les musiciens, dont certains sont venus le saluer.
Oui, il y en a même qui ont publié des photos après le concert. Oui. Vous étiez en compagnie de Michel Plasson, très ému, parmi les plus anciens de l'orchestre.
Et oui, bien sûr.
Parce que Michel Plasson a quitté la direction musicale de l'Orchestre National du Capitole il y a maintenant pas loin de 20 ans, si je ne me trompe pas.
Oui.
Et alors à ma connaissance, il n'était jamais revenu.
Non, pas du tout.
À des concerts à Logrin.
Oui, exactement. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il a quand même dirigé l'orchestre pendant 35 ans.
Oui, si l'orchestre est ce qu'il est aujourd'hui,
on lui
peut
doit
dire
beaucoup.
Sans exagérer qu'on le doit beaucoup à Michel Plasson.
Ah, absolument.
Qui a eu 92 ans, il n'y a pas très longtemps.
Oui,
apparemment, il est encore en bonne forme.
Mais oui, il est de temps en temps, il dirige encore.
Et oui, alors c'était effectivement très émouvant de revoir Michel Plasson aller à Logrin et le voir saluer les musiciens qu'il a connus à l'époque où il dirigeait notre cher orchestre du Capitole. Le troisième mouvement de la symphonie numéro 5 de Jean Sibelius est grandiose, alors je pense que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que nous réécoutions son début Allegro Molto. Il s'agit d'une version enregistrée par le Berliner Philharmoniker, dirigée par Herbert von Karajan. Thank you. extraordinaire début du troisième mouvement Allegro Molto de la symphonie numéro 5 de Jean Sibelius dans une version du Berliner Philharmoniker dirigé par Herbert von Karajan. C'était une des œuvres au programme du concert de l'Orchestre National du Capitole jeudi dernier à la Lograin. Prochain rendez-vous avec l'ensemble symphonique toulousain le dimanche 21 décembre. Il va vous être présenté tout à l'heure dans la rubrique Agenda de cette émission. Nous voulions revenir aussi sur le concert donné lundi à Saint-Pierre-des-Cuisines par le duo Thibaut Garcia-Antoine Morinière. Les deux jeunes guitaristes s'y produisaient à l'invitation du cycle des grands interprètes et ils ont joué pour la première fois à Toulouse leur version des célèbres Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, dont ils ont eux-mêmes réalisé la transcription pour deux guitares, une version qu'ils ont enregistrée sous le label Erato Warner Classic, un CD paru il y a quelques semaines qui a été couvert d'éloges à juste titre par la presse spécialisée. Serge, est-ce que leur prestation en concert a été à la hauteur de ce que l'on pouvait en attendre ?
Ah oui, même au-delà, puisque la présence physique ajoute quand même un plus par rapport à la grande qualité de cet enregistrement. Effectivement, dont on a déjà parlé ici d'ailleurs, avec raison. C'est vraiment... Alors, j'ai même pensé en les écoutant que nous assistions à un voyage en apesanteur, en quelque sorte. C'était vraiment excellent. Avec cette transcription, ça n'est pas la première, hein. Les variations Goldberg ont subi, si je puis dire, avec des guillemets, de multiples transcriptions. Et notamment, très récemment, elle a été jouée le 1er décembre dernier dans le cadre des Clés de Saint-Pierre dans une adaptation pour un trio à cordes. Donc, vraiment, ça ouvre tous les champs des possibles, hein, cette œuvre. Et donc, l'arrangement pour deux guitares, d'après ce qu'ont dit eux-mêmes Thibaut Garcia et Antoine Morinière, cherche à préserver l'illusion d'être joué par un seul interprète. Et c'est vraiment l'impression que l'on a. Si on ne les voyait pas les deux sous nos yeux, on penserait que c'est un guitariste à quatre bras qui joue cette adaptation. Ça a été vraiment un beau moment. Alors, ils ont tout mis de leur côté, évidemment, puisqu'ils jouent sur deux guitares jumelles qui ont été taillées dans le même arbre pour qu'elles donnent le même son. Et ils ont effectué une retraite à l'abbaye de Solesmes dans le but de mieux comprendre la spiritualité de Bach. Donc, vous voyez...
Ah oui, les soirées au hasard, et là je reconnais déjà dit ici, le perfectionnisme de Thibaut Garcia qui m'avait parlé en effet de cette retraite à l'abbaye de Solesmes, abbaye bénédictine dans la Sarthe, si je ne me trompe pas. Il y a la Sarthe d'ailleurs, je crois qu'il passe à côté, la rivière, et ils étaient un petit peu à l'écart, mais ils mangeaient à midi, ils prenaient les déjeuners avec les moines dans le silence. Un instant de recueillement avant d'aller travailler leur guitare et les arrangements, la transcription des variations Goldberg à deux guitares qu'ils ont réalisées, c'est incroyable.
Ah oui, oui. Mais ils ont vraiment transporté, on peut dire, cette transcription dans de nombreux concerts au cours d'une tournée. Et le concert toulousain, c'était la conclusion de cette tournée. Oui. C'était le dernier concert. Pour eux, c'était... très important. On avait l'impression qu'il y avait vraiment un objectif fondamental pour eux. Il faut quand même préciser que cette adaptation est très originale, effectivement. À mon avis, c'est la première qui a été faite.
Il y avait déjà une adaptation pour deux guitares. On y avait assisté d'ailleurs, parce que c'était aussi un guitariste originaire de la région toulousaine.
Oui,
c'était Sébastien Linares.
Linares, exactement. Oui, oui, absolument. Il faut quand même préciser que le passage du clavecin original aux guitares reste du domaine des cordes pincées. Donc on reste dans les mêmes domaines de sonorité et on n'est pas déconcerté. Hein. Et là, dès qu'ils ont attaqué les premières mesures de l'aria initiale, c'était presque hésitant. On avait l'impression que le duo de guitare semblait jouer, non pas sur la pointe des pieds, mais sur la pointe des notes. Et l'émotion se manifestait déjà devant l'intériorité de cette entrée en matière. Et puis les 30 variations qui ont suivi ont alterné les atmosphères dans toute leur diversité, à la fois de la joie sereine à la méditation, de la contemplation au sourire, donc des étapes d'un voyage qui couvre un spectre musical et expressifs qu'ils ont magnifiquement dominés. Ils ont également beaucoup travaillé les enchaînements qui respecte cette diversité. Et donc, on a l'impression d'assister à une œuvre unique, continue, mais riche d'une certaine variété expressive. Et puis, je voudrais préciser qu'un petit détail vestimentaire, une sorte de dress code des musiciens qui semble en accord avec le registre dans lequel ils s'expriment. Ainsi, Thibaut Garcia, qui assurait tout au long de ce concert majoritairement la partie basse, eh bien, il était habillé en noir, avec un costume noir, alors que Antoine Morinière, qui était plus présent dans le registre aigu, était vêtu de blanc.
Donc, c'est le yin et le yang.
Oui, oui, c'était très, très bizarre, très amusant. Je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais en tout cas,
probablement.
C'était bien vu. Donc le retour final de l'Aria da Capo, comme un retour aux sources en quelque sorte, a conclu cette espèce de feu d'artifice intérieur dans le recueillement le plus complet. Et alors cet instant a été tellement hors du temps qu'un long silence s'est prolongé. Le public était fasciné et a attendu très longtemps comme s'il n'osait pas rompre la magie du moment. Vraiment, ça a été très impressionnant. Un long, très long silence. Alors là, ils ont été acclamés évidemment, rappelés à diverses reprises sur le podium, mais Thibaut Garcia donc a pris brièvement la parole pour indiquer qu'après une telle œuvre, il n'était pas question de jouer un bis, évidemment.
Ça n'a pas de sens. Là.
Ça n'a aucun sens. Donc, il a été de nouveau applaudi et donc ils sont repartis. Et ils ont accordé, ils ont fait une séance de dédicace de leur enregistrement dans les locaux de l'auditorium, où il y a eu énormément, un grand nombre de personnes qui ont tenu à s'approprier cet enregistrement, qui, il est vrai, est magnifique. Ça a été un très, très gros succès.
Et c'est l'aboutissement d'un projet qui est ancien, parce qu'ils en avaient déjà parlé tous les deux. Ils se connaissent depuis, je crois, une bonne douzaine d'années. Et ils en avaient parlé, je crois, il y a 10 ans.
Oui, oui.
Sans savoir quand ils allaient le réaliser. Puis, à un moment donné, c'est le moment d'y aller. Même une fois qu'ils l'ont décidé, mais ils ont pris aussi leur temps pour sortir ce disque extraordinaire, qui a reçu le Choc Magazine Classica là, récemment.
Oui, oui.
Des grands CD, sans doute même de l'année 2025. Et puis, bon, il y a très peu de versions des Goldberg pour deux guitares. Donc, voilà une qui va probablement, je pense, maintenant être une référence.
Oui,
et qui sera sans doute reprise par d'autres guitaristes dans les années, même les décennies à venir. Voilà, on va écouter un extrait de ce superbe disque enregistré par Thibaut Garcia et Antoine Morinière sous le label Erato Warner Classic. Il joue ici la 3e des variations Goldberg. Extrait du très beau CD de Thibaut Garcia et Antoine Morinière avec leur version transcrite pour deux guitares de la 3e des variations Goldberg. Prochain concert de la saison des grands interprètes ce jeudi 18 décembre à 20h à la Halle au Grain, où le chœur Orfeum de Nostiara donne un programme de chant de Noël. Fin de ce retour arrière de cette première partie d'émission, une petite virgule musicale et l'on se retrouve dans quelques secondes avec Serge Chosy pour l'agenda de Mélomanie. A tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
Et cette rubrique agenda s'ouvre donc avec le prochain concert du cycle des grands interprètes, ce jeudi 18 décembre à 20h à la Halle aux Grains. Il est donné par une vieille connaissance des mélomanes toulousains, l'excellent chœur basque espagnol Orfeón Donostiarra, Serge.
Et oui, un chœur qui a été appelé pour la première fois par Michel Plasson, d'ailleurs.
On y revient.
Pour chanter avec l'Orchestre National.
Il y avait plus de 40 ans, moi j'ai le souvenir, et ça avait été enregistré d'ailleurs, d'un requiem de Forêt.
Ah oui.
Avec le chœur Orfeón Donostiarra en 1984, donc il y a même plus de 40 ans.
Oui, exactement.
Et depuis, je pense qu'ils sont revenus, peut-être pas tous les ans, mais pas loin.
Hein. Oh, pas loin, oui, exactement. Alors c'est un chœur qui a une longue histoire, puisqu'il a été fondé en 1897. C'est tout de même à Saint-Sébastien, il a été fondé. C'est vraiment l'un des chœurs d'Espagne et d'Europe les plus importants.
Oui, d'Europe même,
ah, oui, oui,
réputation
absolument.
Européenne. Qui est la particularité, ce ne sont pas des professionnels.
Non, ce sont des chanteurs amateurs,
stricto sensu, dits,
expérimentés. Et ils fonctionnent de manière très professionnelle. Ils donnent quand même près de 40 concerts par an, hein.
Ce qui est tout de même... Pour des non-professionnels, je trouve que c'est très bien.
Pour des non-professionnels, oui, oui. Et son directeur artistique, José Antonio Sainz Alfaro, est directeur depuis 1987. Ça fait quand même un certain temps qu'il les dirige. Et tout de même, ce chœur s'est produit sous la direction de chefs comme Claudio Abbado, Seiji Ozawa, Daniel Barenboim et d'autres. C'est vraiment un chœur très demandé et qui collabore également avec les plus grands orchestres symphoniques, avec le Berliner Philharmonic,
oui, oui, rien que ça, oui.
Notamment. Alors, son répertoire est très très large, puisque outre les grandes œuvres classiques, il chante aussi des œuvres typiques des opéras, des zarzuelas, et un grand nombre de pièces folkloriques également. Hein. On y trouve de nombreuses œuvres de compositeurs français notamment, hein. Et pas simplement avec Michel Plasson, mais beaucoup avec Michel Plasson, effectivement. Et il a également participé à de nombreux enregistrements pour EMI, notamment pour la symphonie numéro 3 de Guy Ropart, ce qui n'est pas une œuvre très connue, et les oratorios Mors et Vita de Gounod, Rédemption de César Franck, mais aussi le Requiem de Verdi et les Carmona Burana. Voilà dans quelles œuvres ils ont enregistré. Donc,
la palette est large.
Ah, très large. Hein. José Antonio Sainz Alfaro, lui, s'est investi très jeune dans le monde de la musique, à la fois professionnellement et par vocation. Et il a étudié au Conservatoire de Saint-Sébastien avec de grands professeurs. Son premier contact avec l'Orfeón, il va l'intégrer en tant que baryton. Ça date de 1974. Il a été nommé directeur adjoint et au décès du responsable, donc du directeur, il a pris la suite et donc en 86, il a pris en charge l'ensemble de l'Orfeón. Depuis, les contributions de ce chœur à de très nombreux concerts n'ont fait que prospérer et augmenter. Et donc le 18 décembre, ce chœur va chanter des chœurs d'origine diverse, d'origine anglaise, allemande, basque et française, avec des œuvres de Handel, de Mendelssohn, de Pretorius, de Schubert, des traditionnels du Pays basque et qui seront suivis de traditionnels français arrangés par Gabriel Fauré.
Oui, notamment. Alors il y a des découvertes là. Je découvre que Les Anges dans nos campagnes, hein, tout le monde connaît ce chant.
Bien sûr.
On chante souvent à la messe, et notamment pour la messe de minuit le jour de Noël. Et donc ce chant traditionnel, il existe un arrangement de Gabriel Fauré, je le découvre.
Mais oui, et donc on va y avoir
droit. Alors
que
tout ça, c'est chanté a cappella. Hein.
Oui, exactement. Il y a également des œuvres de Camille Saint-Saëns et d'Adolphe Adam, donc qui sont...
Oui, Minuit chrétien.
Voilà, Minuit chrétien.
Alors ça, c'est pas Forêt qui l'a arrangé. Hein.
Non.
Un dénommé Harris, bon, là aussi, découverte.
Oui.
Il y a l'Oratorio Noël de Camille Saint-Saëns.
Voilà.
Il est né le Divin Enfant, arrangé par Gabriel Fauré. Voilà encore... Voilà. Une découverte que nous allons devoir à notre cher compositeur apaméen. Et puis les traditionnels basques, alors il faut préciser, c'est basque espagnol tous. Hein.
Oui, absolument, oui. Voilà, c'est ce concert qui nous approche encore de Noël, donc, puisqu'il aura lieu le jeudi 18 décembre à 20h donc, à la Halle aux Grains.
Il y a l'embarras du choix pour vous proposer un des chants de Noël au programme de ce concert. Le mien s'est porté sur la partie anglo-saxonne avec le célèbre « I'm dreaming of a white Christmas » d'Irving Berlin, chanté ici par le chœur Orfeón Donostiarra. I'm Dreaming of a White Christmas d'Irving Berlin, interprété par le chœur Orfeon Donostiarra, un des nombreux chants de Noël au programme du concert que donne donc l'ensemble basque espagnol ce jeudi 18 décembre à 20h à la Halle aux Grains, à l'invitation de la saison des grands interprètes. Le lendemain a lieu la première de Casse-Noisette, ce ballet de Tchaïkovski qu'on ne présente plus, une production à découvrir au Théâtre du Capitole du 19 au 31 décembre lors de 9 représentations. Serge, avant de présenter un mot sur l'œuvre elle-même, Casse-Noisette, c'est vraiment le grand classique des fins d'année un peu partout dans le monde et au Capitole en particulier où il a été programmé très très souvent.
Mais oui, presque une fois sur deux, enfin presque un Noël sur deux. C'est vraiment impressionnant, mais on comprend pourquoi, puisque l'intrigue de ce ballet se passe le soir de Noël, donc c'est un peu normal en quelque sorte. Nous verrons là la version pour les ballets ottomans de la chorégraphie de Michel Rahn, dans des décors et costumes très importants, les décors et les costumes Charles Cusick Smith et Phil Daniels. Les lumières, c'est également important, Jacopo Pantani. Et donc nous verrons le ballet de l'Opéra National du Capitole, l'Orchestre National du Capitole, dirigé par Marzena Diakoun, une chef d'orchestre polonaise qui était déjà venue il y a quelques années diriger l'orchestre, et également participe la maîtrise de l'Opéra National du Capitole, donc les jeunes chanteurs du chœur du Capitole.
Oui, alors il y a toute la féerie du conte d'Hoffmann, bien sûr, qu'il faut recréer, donc c'est pour ça que vous aviez raison d'insister sur les décors et les lumières qui sont très importantes. Et puis il y a cette merveilleuse musique de Tchaïkovski. Pourtant, à la fin de sa vie, quand on sait à quel point il pouvait être dépressif, c'est pas si étonnant, mais lui, il se lamentait d'avoir pu composer ce qu'il appelait une montagne de confiture. Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment sirupeux?
Mais non, mais absolument pas. Hein. C'est vraiment, il y a des épisodes extrêmement gais, joyeux, et puis d'autres nostalgiques. Non, non, je trouve que c'est une très belle musique, il faut le redire.
Alors, c'est fait, évidemment, pour le ballet, et il y a beaucoup de danse. Hein. Vous savez, il y a la danse russe, la danse chinoise, la danse espagnole, la danse des mirlitons, qui sont toutes devenues des standards.
Hein. Absolument, absolument. La valse des fleurs est évidemment peut-être le plus connu, et ce qui est joué le plus souvent séparément du reste du ballet.
Oui, parce que c'est aussi une musique qu'on entend lors de concerts, dans ce qu'on appelle, ce qui en est tiré, des suites pour orchestre.
Exactement.
Et ce sont ces morceaux-là qu'on entend à chaque fois.
Hein. Exactement, oui. Là, on aura la version totale, y compris avec les voix, des voix alors qui ne chantent pas de paroles.
Alors oui, alors, on va en parler de ça. Alors, on va écouter quand même d'abord un extrait, parce que vous avez cité la maîtrise.
Oui.
Et on peut poser la question, pour la plupart des gens qui ont entendu toutes ces pièces que j'ai citées, là, toutes ces danses, on entend l'orchestre et on se dit, mais les voix là-dedans. Alors, on va y venir. Mais avant ça, on va écouter la danse des mirlitons dans une version de l'Orchestre National du Capitole, dirigée ici par Tugan Sokiev.
Thank you.
La danse des Mirlitons dans une version de l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Tougan Sokiev. C'était lors d'un concert du Nouvel An il y a quelques années. Alors Serge, vous avez précisé que cette production du célèbre ballet de Tchaïkovski va rassembler les forces vives de la Maison Capitole. Ah oui. Vous avez aussi rappelé que la chorégraphie était signée Michel Rahn. Les danseurs du ballet de l'Opéra National du Capitole sont préparés bien sûr par Beate Follack, qui est la directrice de la danse au Capitole. Et puis, il y a la maîtrise de l'Opéra National du Capitole, dirigée et préparée par Gabriel Bourgoin. Et on en parlait, mais dans quel morceau on entend des voix ? J'ai bien cherché.
Oui, apparemment d'un morceau qui fait tomber des flocons de neige.
Oui, et je crois que c'est le seul. Ou alors j'ai raté quelque chose. Ouais. Donc c'est la valse des flocons de neige.
Valse des flocons.
On entend des voix, mais il n'y a pas de paroles en fait.
Non, c'est un chœur sans paroles, comme les chœurs de Daphnis et Chloé, par exemple, de Ravel. Il y a quelques œuvres comme ça, pour lesquelles des chœurs chantent uniquement des notes et des sons, mais pas de paroles.
Donc là, ça va être une maîtrise, donc avec beaucoup de voix d'enfants, essentiellement.
Oui.
Mais ça peut être, j'ai vu cette valse des flocons de neige, le chœur peut être un chœur de femme aussi. On trouve des versions où ce sont des chœurs de femmes. Vous avez aussi indiqué que, pour cette production, l'Orchestre National du Capitole va être dirigé par une chef polonaise, Marcena Diakoun. Et en fait, on l'a déjà vue
Exactement. Oui, absolument. Il y a quelques années, oui.
On l'avait vue en décembre 2021. C'était déjà en décembre, mais c'était à la Lohengrin, où elle avait dirigé l'orchestre dans l'exécution de la 5e symphonie de Beethoven. Je ne sais pas si vous vous en souvenez.
Rien moins que ça, oui, absolument. Donc, vraiment, c'est un retour qui était souhaité. Et là, voilà, c'est elle qui dirigera ce ballet, pour lequel il y a deux représentations particulières, le 28 et le 30 décembre. Pour ces deux représentations, l'Opéra du Capitole invite deux danseurs étoiles de l'Opéra National de Paris, Roxane Stoyanov et Hugo Marchand. Donc, on aura l'occasion de voir sur scène, sur la scène du Capitole, parmi le ballet du Capitole, ces deux danseurs étoiles donc de l'Opéra National de Paris.
Donc le 28 et le 30.
28 et 30, voilà.
À noter pour ceux qui voudraient absolument les voir sur scène, ces deux formidables danseurs de l'Opéra de Paris. Il y a 9 représentations, mais je pense qu'il ne faut pas trop traîner quand même, parce qu'en général, les ballets juste avant Noël et jusqu'au jour de l'an sont pris d'assaut pour les réservations.
Exactement.
Donc vraiment, je conseille de ne pas tarder si vous voulez assister à l'une d'entre elles. On va écouter un autre extrait de Casse-Noisette, et Serge l'a dit tout à l'heure, c'est sans doute le plus célèbre de tous, cette valse des fleurs que je vous propose d'écouter maintenant, et c'est encore une version de l'Orchestre National du Capitole.
Thank you.
La Valse des Fleurs, morceau célèbre de Casse-Noisette dans une version de l'Orchestre National du Capitole. Pour conclure cette présentation, je rappelle que le ballet de Tchaïkovski est présenté au Théâtre du Capitole lors de 9 représentations du 19 au 31 décembre. Il nous reste 2 concerts à annoncer avant la fin de cette émission. Ils ont lieu l'un et l'autre le dimanche 21 décembre, mais pas au même endroit, heureusement. Tout d'abord, un concert destiné au jeune public est proposé par l'Orchestre National du Capitole à la Halle aux Grains à 11h et 16h, il y a 2 horaires. Il a pour titre La Boîte à Joujoux, puisqu'il est inspiré de l'œuvre éponyme de Claude Debussy, Serge.
En effet, c'est une œuvre qui a été dédiée par Debussy à sa chère fille Chouchou, qu'il appelait Chouchou. Donc c'est une sorte de grand coffre musical qui déborde de trésors avec des citations amusantes de comptines, d'airs d'opéra et parfois même une touche de jazz. Alors nous l'entendrons là dans une version particulière avec un texte qui a été rajouté par Elodie Fondacci. Elle est animatrice sur Radio Classique et elle vient pour commenter en quelque sorte le déroulement de cette œuvre. Alors, la musique originale est de Debussy, mais Debussy l'a écrite pour le piano. Et donc, ça a été orchestré, même après la mort de Debussy, par André Caplet, qui était très lié à Claude Debussy. Donc. Et cette œuvre a été écrite d'après un livret original d'André Hellet. Voilà, c'est cette œuvre-là qui sera donnée sous la direction de David Dobenfeld et donc avec, je le répète, Elodie Fondacci pour le texte et la narration.
Elodie Fondacci qui est une habituée de la Halle aux Grains depuis quelques années ce qui concerne les concerts destinés au jeune public. Alors pour la petite histoire, André Caplet est surtout célèbre pour avoir eu le prix de Rome devant Maurice Ravel.
Oui, ça, exactement.
Ravel a échoué 2 fois au prix de Rome, c'est quand même incroyable lorsqu'on y pense.
Oui.
Et la première fois, donc c'était Caplet qui était arrivé devant lui. Et Caplet était effectivement très lié à Debussy, ils étaient très amis. Debussy avait commencé l'orchestration de sa boîte à joujoux, mais bon, il meurt malheureusement en 1918 avant de la terminer. Et c'est Caplet qui l'a terminé. Et ce qui est terrible, c'est que cette œuvre était effectivement dédiée par Debussy et sa fille adorée, Claude Emma, surnommée Chouchou. Et Chouchou est morte l'année suivante, en 1919, à l'âge de 14 ans, de la diphtérie à la suite d'un mauvais diagnostic, comme ça pouvait arriver malheureusement à cette époque-là. Et l'œuvre a été créée le 10 décembre 1919, et je crois qu'elle était déjà plus de ce monde. Bon voilà, ce sont les aléas de la vie. On va écouter un extrait, bien sûr, de cette boîte à joujoux de Claude Debussy dans l'orchestration réalisée par André Caplet. Vous allez entendre en suivant La Danse de la Poupée, puis Le Marin. La danse de la poupée et le marin, extrait de la boîte à joujoux de Claude Debussy dans l'orchestration de son ami André Caplet. Vous allez pouvoir découvrir ce ballet pour enfants lors des concerts que donne l'Orchestre National du Capitole ce dimanche 21 décembre à 11h et à 16h à la Halle aux Grains avec Elodie Fondacci à la narration. Dernier concert à noter sur vos agendas, il concerne notamment ceux qui nous écoutent dans le département de l'Ariège puisqu'il a lieu à l'église du Mas d'Asile, également ce dimanche 21 décembre mais à 17h. La violoniste Marie Cantagril s'y produit aux côtés d'un quintet de musiciens. Quelles œuvres vont-ils jouer, Serge ?
Eh bien, ils vont jouer deux œuvres auxquelles ils sont très habitués. Les quatre saisons de Vivaldi, pour quatre concertos pour violon et orchestre à cordes, mais là avec un quintet, donc. Et puis, les airs bohémiens de Pablo de Sarasate, qui était un grand virtuose du violon, donc, et qui a composé ces airs bohémiens aux accents tziganes très intenses.
Donc, oui, voilà, alors c'est les deux œuvres. Une œuvre fétiche de Marie Cantagril, ah, hein, oui. Les airs bohémiens de Pablo de Sarasate. Ce programme, on l'a entendu il n'y a pas si longtemps,
exactement,
à la Halle aux Grains, lors d'un concert qu'avait donné l'orchestre de chambre d'Ariège, que dirige aussi, et qu'elle a fondé d'ailleurs, Marie Cantagril. Et c'était au profit d'œuvres portées par le Rotary Club de Toulouse.
C'est
et
ça.
On y était tous les deux, d'ailleurs.
Exactement, oui. Oui.
Je pense que nos amis de l'Ariège seront contents de pouvoir écouter les quatre saisons de Vivaldi, surtout à ce moment de l'année. On va écouter plutôt, nous, Marie Cantagril, interpréter son œuvre fétiche, comme je le disais il y a quelques instants, un extrait des airs bohémiens de Pablo de Sarasate qu'elle joue ici avec les musiciens de l'orchestre de chambre d'Ariège. Les airs bohémiens de Pablo de Sarasate, un extrait joué par la violoniste Marie Cantagril, accompagnée ici par les musiciens de l'orchestre de chambre d'Ariège. Elle va les rejouer à l'église du Mas d'Asile, dimanche 21 décembre à 17h, lors d'un concert où vous allez aussi pouvoir entendre les quatre saisons d'Antonio Vivaldi. Vous pouvez réserver vos places en envoyant un mail à l'adresse contact@mariecantagril.fr. Je rappelle d'autre part que le chœur Orfeon Donostiara donne un concert de chant de Noël ce jeudi 18 décembre à 20h à la Halle aux Grains dans le cadre de la saison des grands interprètes. La billetterie est en ligne à l'adresse www.grandsinterprètes.com. Casse-Noisette, le ballet de Tchaïkovski, est à l'affiche du Théâtre du Capitole du 19 au 31 décembre lors de 9 représentations dans une chorégraphie de Michel Rann. Les places sont à acheter et à réserver sur le site www.opéra.toulouse.fr. L'Orchestre National du Capitole donne la boîte à joujoux de Claude Debussy à l'occasion d'un concert jeune public dont la narratrice est Élodie Fondacci dimanche 21 décembre à 11h et 16h à la Halle aux Grains sous la direction de David Dobenfeld. Vous pouvez acheter vos places en ligne en vous connectant au site www.onct.toulouse.fr. Merci à Serge Chauzy de m'avoir une fois de plus assisté dans l'animation de cette émission, qui a été réalisée une fois de plus aussi par Coraline Camebrac, assistée de Simon. Le podcast est téléchargeable dès maintenant sur le site web de Radio Présence. Et merci enfin à tous ceux et celles qui nous ont écoutés aujourd'hui. Très bonne semaine musicale à tous.